Je précise que ce n'est pas autobiographique. Ça aurait pu l'être. C'est l'histoire d'un jeune pasteur très enthousiaste et plein de zèle pour le Seigneur, qui se rend un jour à l'hôpital pour visiter un des membres de sa congrégation gravement malade et en soins intensifs. Après s'être accoutré des vêtements jetables d'usage, il entre dans la chambre et voit l'homme couché sur son lit avec toute une batterie de tubes et de tuyaux de câbles attachés à son corps. Notre homme a les yeux ouverts, mais il ne peut pas parler. Après une salutation rapide, le pasteur s'approche du lit et commence à exhorter le malade, à garder courage et à garder confiance en Dieu, en citant toutes sortes de versets les uns à la suite des autres. Et très rapidement, le malade commence à réagir en bougeant les mains et la tête. Notre pasteur prend ces manifestations comme des encouragements à continuer, comprenant par là que notre homme est touché par ces exhortations. Au bout de quelques instants, alors que notre pasteur est reparti dans une longue tirade d'exhortations en tout genre, notre homme saisit tant bien que mal une ardoise qui est là tout près, une ardoise qui est là pour qu'il puisse communiquer. Et après de grands efforts, dans une agitation toujours plus grande, il parvient à écrire quelques mots. Notre jeune pasteur est ému en pensant à tout le bien que Dieu est en train de faire à cet homme au travers de ses exhortations et de ses encouragements. Et c'est à ce moment-là que notre homme arrête soudain de s'agiter et perd connaissance. Notre jeune pasteur ne comprend pas ce qui se passe et il se dit au fond de lui-même qu'il a bien fait de venir avant que la situation n'empire dramatiquement, comme cela semble être le cas. Il appuie sur le bouton d'appel des infirmières et c'est là qu'il voit l'ardoise et qu'il repense à ce que l'homme a écrit et qu'il n'a pas encore vu. Il retourne alors l'ardoise et lit ceci. « Tu es en train de marcher sur mon arrivée d'oxygène. » L'exhortation. Voilà un mot que l'on n'entend pas très souvent en dehors des milieux chrétiens, dans lesquels il est par contre très utilisé. On parle souvent d'exhortation. Et pour cause, la Bible a beaucoup de choses à dire sur l'exhortation, et c'est en particulier le cas dans le Nouveau Testament. Nous allons ce matin ajouter un nouveau volet à notre série sur les relations fraternelles dans l'Église en abordant une nouvelle exhortation de l'apôtre Paul qui se trouve dans sa lettre aux Colossiens que j'aimerais maintenant lire avec vous. C'est Colossiens au chapitre 3. Et je vais lire les versets. Voilà, les versets 16 à 17. Colossiens 3, les versets 16 et 17. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus, en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. Avant de réfléchir au sens du verbe « exhorter », j'aimerais premièrement dire quelques mots sur la difficulté de l'exercice. Notre histoire l'a souligné de manière caricaturale, certes, mais en mettant le doigt sur le fait que l'exhortation peut être un exercice difficile. En effet, exhorter dans l'Église est une responsabilité communautaire qui est loin d'être évidente. Je dis communautaire et pas seulement pastorale, parce que l'expression dans notre texte « les uns les autres » englobe tous les frères et sœurs en Christ de l'Église. Nous avons vu la semaine dernière la question de l'accueil mutuel auquel Dieu appelle son Église. Mais notre responsabilité envers nos frères et sœurs en Christ, dans la foi, ne s'arrête pas à l'accueil. Dieu désire que nous allions plus loin dans nos relations les uns avec les autres. Ainsi, l'amour fraternel que Dieu demande, nous demande d'avoir, est un amour qui non seulement accepte l'autre tel qu'il est, mais aussi qui se soucie de son bien. Qui se soucie de son bien, qui se soucie de sa croissance spirituelle. Et en disant cela, nous voyons tout de suite se profiler à l'horizon toute la difficulté de la mise en pratique d'une telle parole « Exhortez-vous les uns les autres ». En effet, où est la limite, la frontière entre ma responsabilité et celle de l'autre ? À partir de quand est-ce que je me mêle de ce qui ne me regarde pas ? À quel moment mon exhortation, mon amour fraternel devient-il ingérence, indélicatesse, manque de tact de ma part? Exhortez-vous les uns les autres fait partie de ce qu'on pourrait appeler les exhortations à double tranchant. À double tranchant parce que si elles visent le bien de l'autre, elles peuvent parfois engendrer le contraire. Engendrer des difficultés et blesser l'autre. Combien de fois, combien d'exhortations supposées édifier ou encourager l'autre l'ont au final laissé sur le carreau. Notre impératif du jour, notre exhortation, exhortez-vous les uns les autres, nous place devant une responsabilité qui n'est pas facile, qui est loin d'être évidente, et qu'il nous faut essayer de bien définir. C'est ce qui nous amène au point suivant que je formule sous forme d'une question. Que veut dire exhorter ? Avant de limiter notre définition de l'exhortation au seul verbe qui accompagne cette expression les uns les autres dans le Nouveau Testament, j'aimerais souligner que la Bible a toute une richesse utilise toute une richesse de verbes, c'est notre premier point, pour décrire les différentes formes que peuvent prendre nos entretiens mutuels. Et d'ailleurs, plusieurs de ces verbes sont traduits dans nos Bibles en français par le verbe exhorter. Pas tous, mais plusieurs d'entre eux sont régulièrement traduits ainsi. Alors voilà quelques exemples, c'est absolument pas exhaustif, quelques exemples. On aurait pu en citer bien plus. Nous devons parler les uns avec les autres, entre autres, premièrement, dans l'ordre que j'ai défini, mais pas forcément dans un ordre de priorité, premièrement pour nous édifier. 1 Pierre 2, verset 5, « Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous. » pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Et le verbe grec qui est utilisé ici signifie littéralement « construire une maison ». C'est intéressant. « Édifiez-vous ». C'est « exhorter », c'est « nous construire mutuellement ». Nous édifier les uns les autres, participer à la construction les uns des autres. Nous devons parler les uns avec les autres, entre autres, deuxièmement, pour nous consoler. 1 Thessaloniciens 2, versets 11 et 12, « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Et le verbe grec qui est utilisé ici signifie parler près de quelqu'un, parler à son cœur, parler avec tendresse. Nous exhorter, c'est donc parler tendrement au cœur de l'autre, c'est nous consoler. Nous devons parler les uns avec les autres, troisièmement, pour nous prier, pour nous demander des choses. 1 Thessaloniciens 4, verset 1, « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions, nous vous demandons, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Le verbe ici exprime simplement la requête. Nous devons nous parler en nous formulant des requêtes pour nous inciter à avancer dans la bonne direction. Et puis le dernier exemple que j'ai choisi concerne le verbe persuader. Nous devons parler les uns avec les autres pour nous persuader. Acte 13, verset 43, « Et à l'issue de l'assemblée, beaucoup de juifs et de prosélytes pieux suivirent Paul et Barnabas qui s'entretinrent avec eux et les persuadèrent. » Et dans la plupart des traductions, c'est « et les exhortèrent de rester attachés à Dieu. » Et le verbe ici, le verbe grec, signifie « convaincre, amener à un changement d'avis par des arguments rationaux, rationnels ou moraux. » Nous exhorter, c'est aussi nous convaincre, nous persuader parfois de changer d'avis. Alors que retirer de ces exemples non exhaustifs ? J'aimerais retirer une chose, et il me semble que ces exemples soulignent certainement plusieurs choses, mais soulignent entre autres que le programme, la feuille de route que Dieu nous propose pour les relations fraternelles, les relations entre frères et sœurs en Christ dans l'Église, cette feuille de route, elle exclut totalement les relations superficielles. Parce que pour vivre ce que ces verbes impliquent, ces quelques verbes et tous ceux que je n'ai pas mentionnés, il faut plus que quelques échanges à la fin d'un culte. Il faut de vraies relations. Il faut des échanges nombreux, réguliers, profonds. Il faut du temps afin de pouvoir exhorter, édifier, consoler, solliciter, convaincre, etc. Et ce que Dieu désire pour nous, pour son Église, pour nos relations fraternelles, c'est que nous ayons plus que des simples échanges sur le plan humain, c'est déjà bien, c'est que nos échanges mutuels contribuent de façon significative à notre croissance spirituelle, à notre perfectionnement et à notre sanctification. Revenons à notre texte de Colossiens 3. Et j'aimerais maintenant préciser le sens du verbe « exhorter » dans ce passage. C'est notre deuxième sous-point, nous avertir les uns les autres. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres en toute sagesse, par des psaumes, par des hymnes, par des cantiques spirituels, chantant à Dieu dans vos cœurs sous l'inspiration de la grâce. Le verbe qui est utilisé ici, je ne vais pas forcément le prononcer, mais c'est un verbe qui veut littéralement dire « mettre dans l'esprit de l'autre ». Mettre dans le nous de l'autre. Le nous, c'est l'esprit en grec. Mettre dans l'esprit de l'autre. Nous avons donc ici l'idée d'avertir, l'idée de rendre attentif, l'idée de mettre quelque chose sous les yeux de l'autre. Et ce verbe est justement généralement traduit dans nos Bibles par le verbe avertir. Vous pourrez vérifier, c'est fort possible que dans votre traduction, vous ayez le verbe avertir. Je ne sais pas si j'ai déjà dépassé le temps imparti. Alors ce verbe, on le retrouve dans Romains 15, verset 14 par exemple. Pour ce qui vous concerne, mes frères, dit Paul, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous avertir, de vous exhorter les uns les autres. Voilà, très rapidement, on reviendra sur ce texte un petit peu plus loin. Le sens d'exhorter dans Colossiens 3. Il y a un autre verset dans le Nouveau Testament. C'est dans la lettre de Paul aux Thessaloniciens, au chapitre 5, verset 11, où nous retrouvons cette même expression « exhortez-vous les uns les autres ». Mais cette fois-ci, nous la trouvons avec un autre verbe en grec. C'est donc intéressant de comparer. Colossiens 1 Thessaloniciens 5, verset 11, « c'est pourquoi exhortez-vous réciproquement » et édifiez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Et nous abordons ici le troisième sous-point, appelé à côté de soi. Appelé à côté de soi. Pourquoi appelé à côté de soi? Parce que le verbe grec qui est utilisé ici, c'est le verbe parakaleo. Pour ceux qui ont quelques notions de grec, hein, vous voyez para à côté et kaleo appelé. Appelé à côté d'eux. Soit pour être aidé soi-même, je fais appel parce que j'ai besoin d'aide, ou alors je fais appel parce que je veux aider. Et c'est le sens ici dans notre texte. J'appelle à côté pour pouvoir aider l'autre, pour pouvoir l'exhorter. Comme nous l'avons déjà souligné avec les quelques verbes que j'ai mentionnés au départ, ce verbe parakaleo, appeler à côté de soi, sous-entend cette proximité que j'ai déjà évoquée, une proximité des personnes, une relation qui ne peut pas être superficielle, puisque j'appelle à côté de moi. Ce que j'ai à dire quand j'exhorte doit être dit dans une relation où je suis côte à côte avec l'autre. Et cela, si je ne veux pas que ça sonne faux. Ça doit se construire, ça prend du temps, ça ne s'improvise pas. Si la seule fois où je suis côte à côté de mon frère ou de ma sœur, c'est pour l'exhorter, et si puis le reste du temps je ne suis jamais avec cette personne, ça risque de tomber à plat. Pouvons noter que ce verbe est très fréquent dans le Nouveau Testament, ce verbe parakaleo, on le trouve à peu près une centaine de fois dans le Nouveau Testament. Donc c'est donc un verbe très très important. Et dans nos Bibles, ce verbe est très souvent traduit par exhorter, mais aussi par d'autres verbes, prier, supplier, consoler, encourager, réconforter. Selon les contextes, il peut y avoir d'autres traductions. Mais comme ce verbe est très important, comme il revient souvent, comprendre son sens est vraiment utile pour comprendre ce qu'est l'exhortation mutuelle à laquelle Dieu nous appelle. Appeler l'autre à côté de soi pour l'aider. C'est une image parlante, je pense, pour chacun de nous, une image parlante pour nous aider à comprendre ce qu'est, ce que doit être l'exhortation. Et c'est une image parlante qui va trouver un parallèle très intéressant dans ce que Dieu a fait pour nous par son Esprit et par Jésus-Christ. En effet, que dit Jésus de la venue du Saint-Esprit dans Jean au chapitre 14, au chapitre 15 et au chapitre 16? Vous avez peut-être ces textes en tête et vous savez que Jésus, à 5 reprises, va annoncer la venue du Consolateur. Le Consolateur, lui, va partir, mais il enverra le Consolateur. Et vous savez comment on dit ce mot consolateur en grec? On dit ce mot, c'est la même racine que notre verbe parakaleo, on dit le paraclète. Le paraclète. Littéralement, celui qui est appelé à côté de moi, le paraclète. Et ce paraclète, il est appelé à côté de moi dans le but de m'aider, dans le but de me conseiller, dans le but même parfois de plaider ma cause comme le ferait un avocat. Le texte de Jean 14, 16, par exemple, « Et moi je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, donc le paraclète, afin qu'il demeure éternellement avec vous. » Voilà ce que le Saint-Esprit est pour chacun de nous, celui qui est à côté de nous pour nous aider. Et c'est aussi ce que Jésus va dire de lui-même. C'est en tout cas ce que Jean, dans sa première épître, nous dit de Jésus. Nous connaissons aussi ce texte. 1 Jean 2, verset 1. « Mes petits enfants, dit Jean, je vous écris ces choses, afin que vous ne péchiez point, et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat, un paraclète, auprès du Père, Jésus-Christ, le juste. » Alors, qu'est-ce que c'est parallèle ajoute à notre compréhension de l'exhortation mutuelle à laquelle Dieu nous appelle. Il nous amène à dire, et je précise bien toute proportion gardée, que exhorter notre frère ou notre sœur en Christ, c'est être pour lui ou pour elle une extension de ce que le Saint-Esprit ou Jésus est pour chacun de nous. C'est être à leur côté, toute proportion gardée, bien sûr, comme le Christ et comme le Saint-Esprit sont à nos côtés. Alors, je ne sais pas si vous aviez déjà considéré l'exhortation sous cet angle-là. C'est plutôt exigeant, mais en même temps, c'est assez éclairant. C'est éclairant parce que quand on considère l'exhortation sous cet angle-là, il devient très difficile d'envisager l'exhortation comme quelque chose de négatif. Comment envisager l'exhortation de manière négative quand je comprends que c'est d'une certaine manière une extension de ce que le Saint-Esprit et Jésus sont pour moi? Ce n'est pas possible. Et nous comprenons par là que l'exhortation vise toujours le bien de l'autre, vise toujours son encouragement, toujours sa consolation, toujours son réconfort. C'est ça, l'exhortation. Et c'est la raison pour laquelle il faut bien comprendre que l'exhortation, ce n'est pas la réprimande. Trop souvent, il y a amalgame entre les deux. Mais en réalité, les deux existent, il y a une place pour les deux, mais les deux ne font pas qu'un. L'exhortation, c'est l'exhortation, la réprimande, c'est la réprimande. Quelques textes pour nous montrer que cet amalgame n'a pas lieu d'être. 1 Timothée 5, verset 1. « Ne réprimande pas rudement le vieillard, mais exhorte-le comme un père. » Exhorte les jeunes gens comme des frères. On voit bien que les deux sont bien différents. 2 Timothée 4, verset 2, « Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou pas, reprend, d'accord, censure, exhorte, avec toute douceur et en instruisant. » Tite 2, 15, dit ces choses, exhorte et reprend avec une pleine autorité. Il nous faut donc veiller à ce que l'exhortation ne devienne jamais de la réprimande. Il y a un temps pour la réprimande et il y a un temps pour l'exhortation. Après ces quelques éléments de compréhension de ce qu'est l'exhortation mutuelle, j'aimerais terminer avec un troisième et dernier point en proposant quelques pistes sur la manière, le comment. Comment exhorter? C'est notre troisième point et les sous-points que je vais décliner ici, je les tire de différents textes, certains je les ai déjà cités, Romains 15, 14, Colossiens 3, 16, 1 Thessaloniciens 5, 11, et puis Hébreux 3, versets 12 et 13. Et puis, j'ai aussi lu avec grand intérêt le livre d'Alfred Kuhn et le chapitre qu'il écrit sur cette exhortation, « Exhortez-vous les uns les autres », et je me suis inspiré de beaucoup de choses qu'il dit dans ce chapitre. Comment exhorter dans l'Église ? Premièrement, en ayant les capacités de le faire. Romains 15, verset 14, « Pour ce qui vous concerne, mes frères, je suis moi-même persuadé que vous êtes pleins de bonnes dispositions, remplis de toute connaissance et capables de vous exhorter les uns les autres. » On peut aussi ne pas être capable. Là, l'apôtre estimait qu'ils étaient capables. Alors, qu'est-ce qui nous qualifie ? Qu'est-ce qui nous rend capables d'exhorter dans l'Église ? Nos diplômes, notre position sociale, notre expérience. Nous n'avons pas à chercher bien loin parce que la réponse est dans notre verset. Il faut être premièrement plein ou rempli de bonnes dispositions. C'est la première des capacités. Plein de bonté envers mon frère et ma sœur. Si j'ai de mauvaises dispositions, ce n'est pas le moment d'aller l'exhorter parce que ça va tourner à la réprimande. Il faut être rempli de bonnes dispositions envers son frère ou sa sœur. Il faut vouloir son bien. Il faut n'avoir dans son cœur ni amertume, ni animosité à son égard. C'est la première des conditions que souligne l'apôtre Paul ici. Et puis, il faut aussi, dit-il, être rempli de toute connaissance. Connaissance de quoi ? Connaissance sans doute du plan de Dieu pour le salut et pour la sanctification de tout homme. Connaissance sans doute aussi de l'âme humaine en général et puis sans doute aussi de la personne en particulier. En effet, si je connais ses points forts et ses points faibles, ses tendances, son tempérament, son passé, ses projets, je vais certainement pouvoir l'exhorter bien plus à propos que si cette personne est en réalité un inconnu pour moi. Et nous revenons ici à cet élément de proximité que nous avons déjà évoqué à plusieurs reprises. Et puis en parlant de capacité à exhorter, nous pourrions ajouter ici ce que Paul dit dans sa lettre à Tite, ce qu'il dit en parlant de l'attachement à la parole. Il dit « attaché à la vraie parole telle qu'elle a été enseignée afin d'être capable d'exhorter », selon la saine doctrine et de réfuter les contradicteurs. Alors là, nous sommes dans un passage qui parle des qualifications que doivent avoir les anciens, mais ce qui est vrai pour les anciens, est vrai pour les autres aussi, dans le sens que si je veux exhorter, que je sois ancien ou pas, je dois certainement être attaché à la parole. Alors comment exhorter dans l'Église ? Deuxièmement, en nous appuyant sur la parole de Dieu. C'est le prolongement de ce que nous venons de voir à partir du texte de Tite. Et nous revenons ici à notre texte de Colossiens 3, verset 16. « Que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. » Que la parole de Christ habite abondamment parmi vous. Instruisez-vous et exhortez-vous. Pour exhorter véritablement selon Dieu, il faut que la parole de Dieu habite en nous et qu'elle habite en nous dans toute sa richesse. Littéralement, le texte dit qu'elle soit richement, c'est traduit ici par abondamment, qu'elle soit richement à la maison chez vous. Voilà comment on peut traduire littéralement le texte. Ça veut dire qu'il faut que nous connaissions la parole de Dieu comme nous connaissons celles et ceux qui vivent sous notre toit. Que la parole soit richement à la maison, chez nous, dans notre cœur. Alors nous serons en mesure d'édifier et d'exhorter notre frère ou notre sœur. C'est la parole de Dieu qui est le fondement de l'exhortation mutuelle à laquelle nous sommes appelés. C'est elle qui révèle le plan de Dieu pour notre vie, pour la mienne et pour celle de mon frère ou de ma sœur en Christ, pour l'Église, pour les relations fraternelles. C'est dans la parole que nous puisons la feuille de route. C'est elle qui va nous dire ce qui est bien et qui va mettre le doigt sur ce qui doit changer. C'est elle qui a l'autorité nécessaire pour cela. Troisièmement, comment nous exhorter les uns les autres en nous appuyant sur la parole de Dieu? Et je termine en soulignant que c'est exactement ce que l'apôtre Paul fait dans ses lettres du Nouveau Testament. Il y a très souvent une partie doctrinale, c'est le cas dans Romains, c'est le cas dans Éphésiens, et puis à un moment donné, il arrive et il dit « Je vous exhorte donc ». « Je vous exhorte donc ». Romains 12, verset 1, Éphésiens 4, verset 1, etc. Et ce petit mot « donc » nous fait comprendre que pour son exhortation, l'apôtre Paul va s'appuyer sur tout ce qu'il vient de dire dans les chapitres précédents, sur tout ce qu'il vient de dire sur l'œuvre que Dieu a fait pour nous en Jésus. Et c'est sur la base de cette œuvre qu'il va pouvoir encourager, réconforter, appeler à quelque chose, appeler à une vie digne de l'Évangile, etc., à cause de l'œuvre de Jésus-Christ accomplie pour nous et en nous. Et ainsi, comme l'écrit Alfred Kuhn dans ce chapitre qu'il écrit sur cette exhortation, il dit « L'exhortation chrétienne n'a donc rien à voir avec un simple appel moral. Tu dois ou tu devrais être plus aimable, plus honnête, plus humble. Nous n'avons pas à faire appel aux forces de la volonté naturelle de l'homme, nous devons nous appuyer sur ce que le Christ a fait pour nous et pour le frère que nous exhortons, sur la vocation qu'il nous adresse, sur la dignité d'enfant de Dieu qu'il nous confère, sur les promesses qu'il nous donne. D'ailleurs, les apôtres relèvent bien des aspects positifs, bien plus d'aspects positifs que de négatifs, chez leurs correspondants. Nous avons tous davantage besoin d'encouragement que de reproches. » Nous exhorter en nous appuyant sur la parole de Dieu, sur ce que Dieu a fait pour nous. Et puis, troisièmement, nous exhorter en toute sagesse, dit Paul aux Colossiens. Il est tellement facile de manquer de sagesse, en particulier dans le domaine de l'exhortation. On peut exhorter au mauvais moment, par manque de discernement, ou tout simplement par impatience. On peut exhorter de la mauvaise manière, en méconnaissant la diversité des tempéraments, en ne connaissant pas la personne, en utilisant des formules passe-partout, etc. On peut aussi exhorter dans de mauvaises dispositions personnelles. On peut le faire pour humilier l'autre, pour briser sa volonté, pour le soumettre à notre influence ou le conformer à notre image du chrétien. Ça ne devrait pas exister, mais ça peut exister. Il est effectivement facile de manquer de sagesse. Et nous pouvons nous souvenir ici que si nous manquons de sagesse, et nous en manquons tous, quand nous en arrivons à l'exhortation, nous pouvons la demander à Dieu qui la donne à quiconque la lui demande avec foi, comme le dit l'apôtre Jacques au début de son épître. Nous exhorter en toute sagesse. Et puis, quatrièmement, nous exhorter dans l'Église par des psaumes, par des hymnes et des cantiques spirituels. Et cette partie de ce verset des Colossiens nous montre que l'exhortation, c'est vraiment de l'encouragement, beaucoup plus que de la réprimande ou autre chose que nous pourrions imaginer. Et il arrive que les paroles nous manquent pour exhorter, pour consoler, pour encourager. Alors quand c'est le cas, nous pouvons, pourquoi pas, lire un psaume, lire une strophe de cantique qui est particulièrement appropriée à la situation de mon prochain, de mon frère ou de ma sœur. Nous pouvons parler, si nous manquons de mots, des épreuves que l'auteur du psaume que nous avons lu a traversées, ou du cantique au moment où il l'a écrit, et nous pouvons inviter à la même confiance, par exemple. Nous pouvons même chanter ensemble ce cantique. Et je cite à nouveau Alfred Kuhn ici. Et voilà ce qu'il dit, c'est intéressant. Il dit « Peut-être faisons-nous une trop petite place dans nos relations fraternelles au chant en commun. Si nous ne sommes pas doués pour faire des discours d'exhortation aux autres, nous pouvons nous regrouper autour d'un piano ou d'une guitare et chanter ensemble. Les cantiques exhorteront, encourageront, consoleront, édifieront à notre place. Ceux qui sont découragés et abattus, éprouvés ou tentés, trouveront souvent plus de réconfort dans un tel chant en commun que dans un sermon. Vivre ensemble un temps de louange permet de s'élever au-dessus de nos circonstances et de fixer les regards sur Jésus. Ça nous permet même de marcher sur des lignes de crête. Le contempler, l'adorer nous transporte dans la présence du Père qui peut nous toucher dans son amour, nous parler, nous guérir. La musique elle-même a un effet bienfaisant qu'il ne faudrait pas sous-estimer. » Ce qu'Alfred Kuhn dit ici, c'est finalement ce que nous vivons le dimanche matin dans les premières parties de culte. Mais est-ce qu'il faudrait vraiment limiter ça qu'aux premières parties de culte? Il y a peut-être là de la place pour d'autres temps de ce genre qui accompliront ce que dit notre texte des Colossiens. J'avance. Comment exhorter dans l'Église? On arrive au bout. En élevant l'autre. Cinquièmement, en élevant l'autre. 1 Thessaloniciens 5, 11. C'est pourquoi exhortez-vous réciproquement et édifiez-vous, construisez-vous les uns les autres comme en réalité vous le faites. Et édifiez-vous. L'exhortation et l'édification vont de pair. Édifier, c'est construire, c'est élever l'autre, c'est œuvrer pour son bien. L'exhortation chrétienne, dit Kuhn, ne laisse jamais l'autre démoli, abattu, incapable de remplir sa vocation. Et si c'est ce qui se passe quand j'ai voulu exhorter l'autre, alors c'est que mon exhortation a failli. L'exhortation doit être basée sur la vérité, mais aussi sur l'amour. Et je le rappelle, l'exhortation vise toujours le bien de l'autre. Comment exhorter dans l'Église? J'en arrive à mon dernier point, sixième et dernièrement, de façon régulière, régulièrement. Hébreux 3, versets 12 et 13, « Prenez donc garde, frères, que personne parmi vous n'ait un cœur mauvais qui manque de foi et s'éloigne du Dieu vivant, au contraire, encouragez-vous, exhortez-vous, mutuellement chaque jour, aussi longtemps qu'on peut dire aujourd'hui, pour qu'aucun de vous ne s'obstine à cause de l'attrait trompeur du péché. » Cette exhortation chaque jour, nous revenons à cette proximité, à ces contacts réguliers dont j'ai déjà parlé. Et c'est dans ces contacts réguliers qu'une telle exhortation prend son sens. Je le redis, l'exhortation fraternelle, ce n'est pas faire la morale à quelqu'un à la fin d'une réunion, mais c'est participer à sa croissance spirituelle en étant à ses côtés. Et on peut noter ici que notre passage souligne le but de cette exhortation régulière, pour qu'aucun de vous ne s'obstine à cause de l'attrait trompeur du péché. Le pécheur qui n'est pas exhorté finit par s'endurcir. parce que le péché possède un attrait trompeur. Et nous avons besoin d'être exhortés et de nous exhorter les uns les autres. Cette exhortation mutuelle qui a donc pour but notre sanctification, notre persévérance à faire ce qui est bien et juste devant Dieu. Alors j'ai beaucoup cité Alfred Kuhn, mais j'aimerais encore faire appel à lui une dernière fois, dans cette dernière citation, où il dit ceci. L'obéissance au commandement que nous venons de lire trouve difficilement sa place dans les réunions habituelles de l'Église. L'exhortation mutuelle se fait entre quatre yeux, ou tout au plus dans un petit groupe d'amis. Elle implique des échanges fréquents entre les membres de l'Église, en dehors des rencontres officielles. Elle suppose un climat d'amitié et de confiance mutuelle. L'exhortation si fréquente de Jésus et des apôtres, « Aimez-vous les uns les autres », pourrait se paraphraser ainsi, « Soyez amis les uns des autres ». Entre amis, on se connaît bien, on se voit souvent, on se parle de tout, même de ses préoccupations les plus personnelles, et on accepte les remarques des autres. Si les membres d'une église locale sont amis entre eux, ils ne se contenteront pas d'une ou deux réunions hebdomadaires. Ils se retrouveront dans les foyers, ils auront des loisirs communs, ils se promèneront, chanteront et discuteront ensemble. Dans ce climat, il sera facile et naturel de s'encourager, de se consoler, mais aussi d'ouvrir des pistes pour aider l'autre à mieux vivre sa vie chrétienne. C'est en effet dans ce contexte-là, je crois, que l'exhortation mutuelle sera toute naturelle et bien plus facile. C'est tout un programme. Est-ce que nous désirons vivre des relations fraternelles telles que Dieu les désire pour nous, pour son Église ? Alors si c'est le cas, et je l'espère, je pense que nous avons tous eu pas mal de grains à moudre ce matin. Alors réfléchissons-y les uns les autres. Ça, ce n'est pas une exhortation du Nouveau Testament. Réfléchissez-y les uns les autres. Mais on peut. Réfléchissons-y les uns les autres. Réfléchissons-y dans la prière, devant Dieu. Demandons-lui la sagesse dans nos relations fraternelles. Demandons-lui de nous aider à nous approcher les uns des autres. Demandons-lui de se servir de nous pour être un encouragement, une consolation pour notre frère ou notre sœur, afin que nous puissions véritablement vivre cette parole. Exhortez-vous les uns les autres. Alors nous pourrons le faire pour notre bien à chacun et pour sa gloire. Amen. Je vous invite à quelques instants de silence.